Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, avec du son, du sens et des gens qui entrent en résistance.
En direct du studio 511, une émission non calibrée réalisée par Jérôme Chélius, assistée de June Loper avec Philippe Duclos à la technique aujourd'hui.
Au sommaire cette semaine, manger ou pas ? Deux histoires de fous. En Bretagne, rencontre avec des petits paysans qui tiennent tête à l'administration. Quand certains risquent de tout perdre, d'autres font le choix de disparaître. Et à Rouvray, près de Rouen, quand des soignants font la grève de la faim pour les patients, c'est l'hôpital psychiatrique qui est au bord de la crise de nerfs.
Les patients qui ont un mal-être psychique sont devenus des poulets de batterie, en fait. On les entasse et peu importe ce qu'on peut leur apporter tant qu'on les entasse.
Moi, je calibre pas mes tomates. Je pars bien du principe. Mes légumes, je récolte le matin. Le lendemain, je suis sur le marché tel quel. Et ça, on ne fera pas. Il va falloir me couper en deux pour que je changerai.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Le mois de mai n'est jamais fini, scandale les lycéens qui ne veulent pas être sélectionnés comme des poulets en batterie. C'était hier soir, pendant l'évacuation du lycée Charlemagne qu'ils occupaient depuis quelques heures à Paris.
Hier, on était donc le 32 mai.
La contestation contre Parcoursup gagne les lycées. Et jeudi prochain,
le 38 mai donc,
c'est un appel général au blocage des lycées qui a été lancé et les élèves de 53 établissements ont déjà répondu présents. Et ça, malgré la répression policière et judiciaire qui s'abat sur eux quand ils s'inquiètent pour leur avenir et les bons conseils de Gérard Collomb donnés aux manifestants.
Je crois que si on veut garder demain le droit de manifester, qui est une liberté fondamentale, il faut que les personnes qui veulent exprimer leur opinion puissent aussi s'opposer aux casseurs et ne pas, par leur passivité, être d'un certain point de vue complices de ce qui se passe.
Oui, dans un premier temps, gardons cette liberté fondamentale qu'est le droit de manifester. Ni l'intimidation, ni la délation n'en finiront avec ce mois de mai 2018, même si certains ne risquent pas de sortir en colère dans la rue. Les membres des cabinets ministériels ont vu leur salaire augmenter de 20% depuis la mandature précédente. En voilà qui ne vont pas occuper leur ministère. En tout cas, pas comme le personnel de l'hôpital psychiatrique du Rouvray qui occupe les bureaux de la direction Give.
Oui, car après plus de deux mois de grève, des actions, des mobilisations et toujours aucune négociation, les personnels de cet hôpital psy en sont aujourd'hui à leur 12e jour de grève de la faim, jugeant indigne le sort réservé à leurs patients au nom de l'austérité.
Occuper et manifester, voilà donc le programme pour défendre les services publics, pour se solidariser avec la lutte des cheminots, des postiers, des lycéens, des personnels soignants, à la ville comme à la campagne, où d'autres enjeux s'ajoutent à ceux qui veulent y vivre et y travailler la terre en conformité avec leurs envies, plutôt qu'avec un système normatif et sanitaire très bureaucratique, Charlotte.
Oui, la semaine dernière, nous vous avions emmené dans les locaux de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, les ex-services vétérinaires qui opèrent les contrôles sur les fermes. Nous avions suivi un collectif de paysans qui avait occupé cette administration pour dénoncer l'empilement de normes qui font disparaître les petites fermes et profitent surtout aux industriels. Cette semaine, alors que l'Assemblée nationale a voté la loi agriculture et alimentation pour une alimentation saine et durable avec du glyphosate et plein d'autres pesticides, on continue à s'intéresser à cette normalisation de l'agriculture et on retourne en Bretagne où certains paysans tiennent tête à l'administration au risque de tout perdre, pendant que d'autres ont fait le choix de disparaître et d'exercer dans la clandestinité.
Comme un bruit qui court, 33 mai 2018, avec ceux qui défendent le droit de se soigner et ceux qui veulent vivre et travailler la terre autrement, même si c'est illégal, tous complices, c'est jusqu'à 17h sur France Inter.
Attends, s'il vous plaît, je termine, vous notez vos questions et j'y répondrai.
On est soumis à des normes,
mais là, vous personnellement, mais
on est soumis à des normes industrielles.
Tu me dis, mais si tu réfléchis, moi j'aurais dû déjà arrêter parce que au moins je serais plus emmerdé avec le contrôleur et tout ça. Ils vont nous tuer.
Quand on a un élevage d'œufs, on doit maintenant avoir une calibreuse à œufs qui coûte 50 000 euros pour pouvoir vendre nos œufs sur le marché. Mais merde quoi! Et alors on fait quoi là? On fait quoi nous?
En fait, ça se passe très bien sans bureaucrate. Force est de constater que les gens sans bureaucratie ont des capacités à s'auto-organiser collectivement au niveau de leur vie quotidienne de manière bien plus efficace que toutes les bureaucraties.
Je vous ai entendu, je vous ai compris, alors maintenant laissez-moi travailler. Un beau jour, on met des boucles électroniques aux brebis, et un autre jour, on va vous mettre des limiteurs d'ouverture à vos fenêtres pour pas que vous suicidiez, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là, quoi.
Oui, forcément que Lydia nous vient de vous les balancer, les œufs, à un moment.
Mais nous, on ne fait qu'appliquer la réglementation.
Eh ben oui, mais...
On ne fait pas la réglementation,
non. Alors, très bien. Alors, ok, alors vous, vous ne faites pas la réglementation, très bien.
T'as pas entendu comment
bruit. Guy Vanctil,
Charlotte Perrin,
Antoine Chao.
Comment? T'as pas entendu comme un bruit.
Hashtag comme un bruit.
On est en Bretagne, en plein milieu de la campagne. On vient de traverser des champs de blé encore verts. Et on vient d'arriver sur la ferme de Alain. Petite maison à l'entrée, des bâtiments agricoles, une grange avec du foin, des bottes de paille empilées. Et comme bon nombre d'éleveurs et de maraîchers, Alain a subi un certain nombre de pressions de la part de l'administration. Des contrôles qui ne se sont pas très bien passés.
Le deuxième pilier, ce sont les normes. Nous en avons bien besoin. Et là-dessus, je crois que je n'ai pas à vous convaincre.
Paperasserie, bureaucratie, surcoût, l'excès de normes est en train d'achever nos agriculteurs.
Ras-le-bol des normes administratives contraignantes et de plus en plus nombreux.
Cette éleveuse de chèvres et de brebis en agriculture biologique a subi 4 contrôles différents cette année.
On a l'impression que de plus en plus les normes, au nom du bien-être, au nom de la qualité, au nom de l'environnement, au nom de tous ces bons sentiments, sont là pour faire la place pour les industriels et dégager tous les petits, tous ceux qui ne sont pas d'accord, tous ceux qui n'ont pas les moyens non plus. Quoi.
Moi, du coup, l'exploitation, ça fait c'est depuis 90 que je fais les premiers légumes. Donc, mon exploitation est basée sur... élevage et donc maraîchage, donc c'est des serres, donc là c'est une serre de fraises, là je commence à récolter, donc les gens viennent aussi récolter parce que donc ils aiment aussi voir
les gens qui achètent, les consommateurs,
ouais les consommateurs, ils viennent et puis donc c'est les gens qui jugent ce que je fais, parce que donc la question, donc je suis pas en bio, moi je dis qu'il n'y a pas besoin d'être bio pour faire des bonnes choses, donc il faut que les gens viennent, c'est pas mon label parce que j'ai pas de label, mais j'essaye de faire à ma façon, et donc moi mes produits j'ai fait comme si j'avais un grand jardin. Ce que je produis, je veux aussi consommer, tu vois. Mes fraises n'ont même pas de bouillie bordelaise, n'ont même pas... j'ai même pas mis un fongi qu'on aurait le droit... Enfin, un fongi. Elles n'ont rien eu. Elles ont de l'eau. Même si mes fruits sont un peu moins beaux ou un peu moins gros, les gens acceptent aussi de venir chercher. C'est comme ça aussi.
Et on est en plein milieu de la campagne. Il y a encore plus de serres là-bas.
Oui, là, on peut descendre. Ouais, il y a plus de serres. Donc, j'ai 3 500 m² de serres. Donc... Alors ça paraît énorme, mais c'est pas beaucoup. Donc, en général, j'essaie de faire une rotation, parce que donc tout à l'heure j'ai dit que j'étais pas en bio, mais que je faisais vachement attention et que du coup deux cultures ne se suivent pas. Par exemple, si je mets des tomates, là, après je vais mettre des courgettes ou je vais mettre de la salade. Enfin, j'essaie de faire des rotations comme ça pour ne pas avoir des maladies ou des choses comme ça à faire. J'ai 3 000 m² de serre à cause de ça, donc voilà.
Et alors vous avez quoi? Vous avez des fraises?
J'ai des fraises qui commencent et après arrivent les concombres. Aujourd'hui, fraises, concombres, courgettes. Après, les tomates vont arriver, les poivrons, aubergines. Enfin, j'ai au moins 8 à 10 légumes par semaine à vendre.
Vous vendez où?
Sur les marchés. Je fais 2 marchés semaine et puis à la maison, à la ferme.
Il a l'air gentil, ce monsieur. Il a l'air de faire de bons produits. Mais méfiez-vous, car c'est un hors-la-loi. Aujourd'hui, nous allons vous faire rencontrer des gens qui, au mépris de la loi, vendent des produits non homologués. Et où ça?
Sur les marchés. Je fais 2 marchés semaine et puis à la maison, à la ferme.
Voilà, bon, rendez-vous compte, des courgettes et des tomates, même pas calibrées. De vrais truands, vous dis-je. Des jusqu'au boutistes qui, tout à fait consciemment, ne respectent pas les normes de commercialisation en vigueur. Mais heureusement, l'administration veille et traque ses sacripants. Alors vous qui m'écoutez, faites attention et n'allez surtout pas tenter de faire un deal de carottes terreuses sur un marché, car vous vous exposez à de très lourdes amendes, comme cet homme que nous avons rencontré.
Moi c'est Alain, je suis agriculteur depuis 1985, j'ai créé l'exploitation, donc je suis arrivé sur 10 hectares de terre, donc aujourd'hui j'en ai un peu plus de 50. J'ai fait un bâtiment, le bâtiment qu'on voit en dessus là, c'était un bâtiment de volaille, j'ai travaillé pour Doux pendant 5-6 ans, j'ai fait l'intégration en canard et puis bon ça me... J'ai quitté ce mode de l'agriculture-là pour aller vers l'agriculture où j'étais plus, plus ou même complètement, où chez moi aujourd'hui, c'est moi le chef. Je fais ce que je veux, c'est un grand mot parce qu'on était quand même, on a plein de normes, plein de choses à respecter, mais je suis encore agriculteur, je suis sur mon exploitation. Je vends tout en libre. Donc la particularité aussi, c'est que je n'achète rien du tout. Je ne vends que ce que je produis. Ça, c'est important pour moi.
Pourquoi ?
Et déjà, ne serait-ce que pour mes clients, parce que les clients, au moins, ils savent que, quand au moins sur le marché, je ne veux pas tromper les consommateurs. Je ne veux pas mettre, par exemple, 10 sortes de légumes et j'en dissimule un dedans qui n'est pas de chez moi ou qui est de. Non, je ne fais pas ça parce que. Enfin, j'ai fait ma place comme ça. Et ma façon de faire, ce n'est pas pour conserver, c'est on ramasse une fraise, on ramasse un concombre, on ramasse une courgette que j'ai ce matin. Demain matin, ça sera sur le marché, c'est manger dans 2-3 jours.
Vous avez eu un contrôle, c'était quand ?
Ça va faire un peu plus d'un an. Enfin, ça fait. J'ai eu plusieurs contrôles tous les un an et demi, parce que je suis. Enfin, j'ai une idée et puis j'essaie de l'emmener jusqu'au bout de moi, mais bon, je pense que je vais finir par perdre. Mais on verra bien, j'irai pas en prison sans doute. Mais je pense que je vais finir par le payer cher par rapport à ce que je vais pouvoir payer ma proportion de chiffre d'affaires. C'est ça qui m'embête un peu. Si je veux continuer à faire ma façon et amener les produits à mes clients de la même façon là, et si bah, c'est trop de contraintes. Bah, du coup, il faut mieux arrêter, mais voilà.
Parce que si vous respectez toutes les normes comme les contrôleurs le veulent, vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez.
On ne peut plus faire, c'est que... Enfin, on va prendre des tomates. Moi, je ramasse mes tomates le matin. Après, on doit les passer à un calibreur. Et puis donc, il sort un endroit, il sort des 47, à un endroit, il sort des 57, à un endroit, il sort des 67. Et imaginez ça, bon, si tu en as des tonnes de tomates, bah, tu vas être rentable. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, à ramasser... Je vais ramasser 100 kilos de tomates, là, je vais passer dans une machine, ils vont en sortir 20 kilos une là, 30 kilos à côté et 40 kilos à l'autre.
Les autres, il faut les jeter.
Bah, arrive au moment où, oui, déjà, s'ils sont tordus, dans le moment où on doit les jeter. Mais même, je vais passer énormément de temps à faire mes calibres pour 2 caisses de tomates. Enfin, tu dis, faut arrêter. Alors que je suis producteur, donc les gens viennent chercher mes produits, mais dans la caisse, ils sont pas cons, les consommateurs. S'ils prennent une petite, ils prennent une petite. Ils veulent prendre une 47, ils la prennent. Ils veulent prendre une 80 pour faire des farcis, ils la prennent. Alors, le problème, c'est que si tu t'expliques et tu dis, j'estime que je fais pas de conneries, je vole pas mes clients, et puis j'ai l'impression qu'on t'en remet un petit peu, on revient te voir, et puis on te retrouve encore un truc à côté, tu vois. Moi, j'emmène des carottes avec de la terre, et normalement, on doit pas emmener de carottes de terre, on doit les emmener de terre, mais il faut qu'ils soient brossés. Imaginez un tout petit peu de terre sur la carotte, dans la proportion, je vends de la terre, donc je vole les clients. Moi, j'ai expliqué que les gens qui viennent chercher mes carottes, entre autres, s'ils sont un peu de terre dessus, s'ils veulent pas de mes carottes, mais je les oblige pas à prendre des carottes. S'il y a de la terre dessus, s'ils les veulent pas, ils les laissent. Et moi, les gens prennent mes carottes. Donc, il y a bien quelque chose. C'est qu'ils veulent des carottes comme ça. Moi, merde, je vole pas les clients. Et donc, l'amende, apparemment, ça peut être énorme. Ça peut aller de. J'ai calculé, moi, je pourrais avoir 20 000, mais je peux avoir jusqu'à 100 000 euros aussi. Hein. Sur 6 mètres de marché, là, où j'emmène 5-6 produits à vendre. Et on va bien voir où ça va aller, mais voilà, c'est. Moi, je calibre pas mes tomates. Je pars bien du principe. Mes légumes, je récolte le matin. Le lendemain, je suis sur le marché tel quel. Et ça, on ne me fera pas. Il va falloir me couper en deux pour que je ne changerai. Dans ma tête, c'est quand même un peu un combat. Je n'ai pas bougé d'un centimètre et ça va rester comme ça. Mais ramener à l'amende, oui, j'ai peur. Ben, ce n'est pas compliqué. La peine maximale que j'avais à sa visite, c'était mon chiffre d'affaires à l'année. Donc imaginez, dans une fois. C'est même pas envisageable. Bon, après, il s'avère, le contraire est plus gentil. Il a dit, mais non, on ne met jamais la peine maximale. On met des grandes sommes pour vous faire peur. Et je dis, moi, j'ai pas peur. C'est pas des normes de danger. C'est qu'ils veulent qu'on est dans un moule et qu'on est tous pareils. C'est ça qui me dérange.
C'est comme ça que petit à petit, il y en a plein qui arrêtent.
C'est comme ça qu'à chaque fois qu'on arrête, oui, c'est ça. Ça va te coûter trop cher par rapport aux petites quantités que tu vas faire. Toutes ces normes empilées unes sur les autres font qu'on en crève. Ouais. On en crève et on nous tue. C'est toutes des normes empilées, donc c'est pas une plus que les autres, c'est les autres empilées une sur l'autre, sur l'autre, une sur l'autre, une sur l'autre. Et puis voilà, merde. On va en crever, oui. Ça c'est sûr.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Un agriculteur se suicide tous les 2 jours et chaque semaine, ce sont 250 exploitations agricoles qui disparaissent, essentiellement des petites fermes au profit de gros regroupements industriels. Mourir ou disparaître. Face à cela, certains ont fait le choix de la clandestinité. Là, ce sont de gros gangsters que nous allons vous faire rencontrer. Ceux qui tuent et découpent le cochon à la ferme au mépris de toutes les règles d'hygiène et de sécurité sanitaire. Oubliez la délinquance des cités, le vrai trafic aujourd'hui se passe dans les petites fermes.
Bonjour.
Ça va ?
Ouais, ça va.
Du coup, vous avez vu la ferme en avant ou pas ?
J'ai vu les serres.
Ouais, voilà.
C'est ça.
Ouais. Voilà l'entrée.
Ah, il y a des petits cochons là.
Ouais. Bon, bah donc là il y a le bitunnel avec aubergines, poivrons, tomates. Et après ce sera les concombres qui vont être plantés prochainement là. Après c'est des melons. Et puis après c'est les légumes primeurs. Les petits pois, les carottes, les choux raves, les betteraves au fond, pour faire en botte, quoi. Ça, c'est le bâtiment de stockage des légumes. Donc là, il y a des légumes pour qu'ils partent demain, en fait. Du coup, je vais fermer parce que... il fait trop chaud. Ça fait 4 ans que j'ai repris cette ferme, qui existait déjà avant. Elle a 15 ans.
Vous arrivez à vous en sortir quand même?
Non, là j'ai refait une demande de RSA. Parce que bah voilà, c'est pas un métier dont on vit facilement sans aide, que ce soit la PAC ou le RSA, quoi.
Et alors vous avez le maraîchage et un petit peu d'élevage avec les cochons et...
Bah les cochons c'est plus pour nous, quoi. Bon, après on en vend, mais du coup voilà, c'est pas... c'est pas très légal, quoi.
C'est-à-dire que vous en vendez, mais un peu sous le manteau, sans...
Ouais. C'est un petit boulot de paysannerie qui nous fait plaisir, et c'est pas forcément, on va dire, rentable. On en fait 2 ou voire 4 par an, mais c'est tout, quoi. Enfin, c'est pas non plus... enfin, ici, c'est le maraîchage avant tout, quoi.
Du coup, vous avez une partie de votre ferme qui est déclarée légale, sur laquelle il y a des contrôles de temps en temps, oui. Qui est toute l'activité de maraîchage.
Oui.
Et vous avez une autre partie d'élevage, avec les cochons et un peu de brebis, je crois.
Oui.
Qui là...
Et là, je préférerais que Charles en parle.
Bella, viens. Viens, Bella. Bella, viens au pied. Au pied.
Vous vous appelez comment?
Charles, du coup.
C'est, on peut le dire, c'est un faux prénom.
Oui. Peut-être que ce que j'ai à dire mérite un petit peu d'anonymat.
Et on ne dira pas vraiment où on est non plus. On est sur votre ferme quelque part en Bretagne. Bon,
c'est ça.
Et tout ça, on ne peut pas le dire, parce que vous exercez de manière clandestine, en fait.
Oui, c'est un bien grand mot. Moi, en tout cas, c'est sûr que mon activité n'est pas déclarée auprès des administrations agricoles comme il faudrait, en fait. Mon activité d'élevage, notamment. J'ai été déclaré, en fait, en tant qu'éleveur, avec des brebis. J'ai arrêté de déclarer à l'administration mon troupeau à la suite de nombreux contrôles à répétition liés à ce qu'on appelle l'identification des animaux d'élevage, donc des brebis, qui, depuis 2010, sont soumis à une nouvelle forme d'identification qui oblige l'usage de puces électroniques à poser aux oreilles des animaux. Donc on est nombreux en France à avoir lancé un combat dès le début de l'année 2010 pour s'opposer à ce puçage électronique des brebis et des chèvres. Et moi, j'ai subi, entre 2009 et 2013, 4 contrôles à répétition, un chaque année, puisqu'ils m'avaient pris déjà la main dans le sac d'une non-conformité au système d'étiquetage dès 2010. J'étais en fraude, du coup, en illégalité, en non-conformité, ou en anomalie, comme ils disent sur les papiers, les formulaires. Donc c'est ce qui a fait que j'ai eu les contrôles à répétition, c'est que souvent, en fait, quand on est repéré en anomalie une fois, ça suscite l'envie de la part de l'administration de revenir dans les fermes, vérifier si on s'est mis en conformité. Donc ce que j'ai consciemment pas fait, donc chaque année, ils sont venus vérifier que, en toute connaissance de cause et volontairement, je ne me mettais pas en conformité. Donc j'ai fini par perdre le peu de primes européennes, ce qu'on appelle les primes PAC, que j'avais pour l'élevage de brebis. Donc à un moment donné, d'une part économiquement, ça devenait... Déjà que c'était une petite économie, hein, j'étais maçon et couvreur par ailleurs, parce que c'était un petit élevage d'une 50aine de brebis qui permettait pas de fabriquer un revenu à lui tout seul. Donc sans les primes, vu que l'élevage de brebis pour la viande depuis plus de 30 ans est entièrement dépendant, enfin depuis plus de 20 ans, entièrement dépendant des aides européennes, personne n'est exempt de cette réalité-là. Bah pour moi, l'économie commençait à être un peu ridicule. Du coup, je me suis dit, voilà, vu qu'il y a les contrôles à répétition, menace de saisie de troupeaux si je continue, bah, il faut que je fasse un choix, soit j'arrête, soit je passe dans la clandestinité, entre guillemets, c'est-à-dire que j'arrête de déclarer mon troupeau. Je le fais disparaître virtuellement, c'est-à-dire que l'administration n'en a plus connaissance. Donc c'est ce que j'ai fait, parce que j'avais absolument pas envie d'arrêter mes relations avec mes bêtes. Et du coup, voilà, depuis 4-5 ans, mon troupeau est plus déclaré à l'administration. Ce qui fait que après j'ai plus d'aide, j'ai plus de sécurité sociale liée à l'élevage, j'ai plus le droit non plus normalement de vendre quoi que ce soit en fait, du coup parce que je peux plus passer par les abattoirs. Donc en fait j'ai réinstallé une économie paysanne qui était encore valable il y a quelques décennies, hein, avant que toutes ces normes nous tombent dessus. C'est-à-dire que du coup on tue à la ferme, on découpe dans une cuisine aménagée. Le comble de cette histoire-là, c'est que alors que j'ai perdu les primes européennes et que du coup économiquement l'élevage aurait dû être presque une aberration. Bah, le fait d'être sorti du système en fait, fait qu'aujourd'hui, avec moins de brebis que ce que j'avais quand j'étais dans la légalité, bah, on gagne plus de sous. Quoi. Vu que j'ai plus les frais d'abattoir, j'ai plus les frais d'étiquetage, j'ai plus les frais de MSA, enfin de Mutualité Sociale Agricole, bah, du coup, en fait, on s'en sort mieux en fait, dans cette économie-là. On est beaucoup plus heureux à faire ce qu'on fait parce qu'on est moins pris dans les contraintes, dans les obligations administratives. Voilà, après c'est un gros risque parce que l'administration, si elle nous retrouve, ça peut être des sanctions quand même non négligeables.
Où est-ce qu'il y a quoi ?
Bon, en vrai, si on regarde les peines maximales, ça peut être de la prison, des lourdes amendes que j'ai pas évaluées. Mais du coup, voilà, vu qu'on prend des risques, l'idée c'est pas de se faire des martyrs, ni de s'enfermer dans une clandestinité silencieuse. C'est un outil pour nous de continuer à mener le combat contre cette normalisation industrielle des campagnes, de l'élevage. Donc c'est un outil de lutte contre le puçage électronique des petits ruminants, contre toutes ces normes qui nous tombent dessus, qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de tuer à la ferme, de découper à la ferme, au nom de la sacro-sainte sécurité sanitaire. Alors même qu'on sait très bien que dans des situations très proches des nôtres, c'est-à-dire moi j'ai un petit élevage, les chasseurs par exemple ont, eux, une autorisation de forcément tuer leurs bêtes, mais aussi de découper chez eux et de vendre à des particuliers. D'un seul coup, la sécurité sanitaire n'existe plus pour les chasseurs. Quoi. Et c'est ce combat-là qu'on a envie de mener, de cette supercherie des normes environnementales, des normes sanitaires, qu'on nous fait apparaître comme des outils de protection de la santé des consommateurs, de protection des petites fermes, qui sont des vrais outils d'industrialisation des campagnes. Quoi.
Mais comment on disparaît comme ça ? C'est pas évident quand on a un troupeau de 50 bêtes
Non, je pensais que ça serait simple. En fait, j'ai découvert que c'était presque plus difficile de se désinstaller, quoi, de désinscrire de l'administration que s'y inscrire. Il n'y a pas 36 solutions. Si c'est la manière d'arrêter, c'est d'avoir vendu le troupeau. Vu que je ne l'ai pas vendu, bah, il fallait que je fasse des fausses factures, quoi, de vente de mes brebis. Donc pour faire des fausses factures qui n'engagent personne, en fait, j'y ai mis des faux noms, quoi, et des fausses adresses. Donc voilà, et du coup, depuis que j'ai résolu l'histoire comme ça, l'administration a considéré que je n'étais plus agriculteur. Quoi. Et voilà, tout simplement.
N'oubliez pas, pour un esprit sain dans un corps sain, mangez 5 pesticides et 5 sulfites par jour. C'était un communiqué de l'interprofession des produits chimiques frais.
Donc aujourd'hui, vous vendez par exemple à qui ?
Nous, on vend à la ferme essentiellement. Enfin, en tout cas, les animaux, c'est que à la ferme, de bouche à oreille, puisque on s'autorise pas à faire de la publicité éhontée. Et voilà, ça suffit largement parce que j'ai prétention de faire une viande de qualité et que du coup les gens reviennent très facilement vers nous.
En sachant.
Il y a aussi des gens qui nous achètent les produits qui sont intéressés de participer aux luttes qu'on essaye de mener. Mais c'est pas évident parce que la plupart des consommateurs, la seule manière aujourd'hui qu'ils ont de se rassurer, c'est l'étiquette, c'est l'emballage, d'avoir un label. Et nous, on vient dire que tout ça est de la poudre aux yeux. Les appellations d'origine contrôlée. À chaque fois qu'une AOC s'est emparée d'un savoir-faire paysan, c'était pour le standardiser de manière industrielle. Et on le voit bien aujourd'hui avec l'histoire de Camembert. Donc aujourd'hui, l'AOC Camembert vient d'autoriser la possibilité pour Lactalis et consorts de fabriquer du camembert à partir de lait pasteurisé. Donc ça y est, le verre est rentré dans le fruit. Et l'osso irati, voilà, une autre figure d'un fromage soi-disant artisanal, tout ça, est fait avec des levures industrielles. Et un fromage ne peut s'appeler osso irati que s'il est fait avec une levure industrielle. Et donc les éleveurs qui utilisent leur propre levain issu de leur lait sont interdits de vendre sous appellation osso irati. Et on appelle ça, les appellations d'origine contrôlée, la défense d'un savoir-faire paysan. Non, c'est faux. C'est un processus d'industrialisation de l'agriculture comme tous les autres formes de normalisation.
Poulet numéro 728120. Poulet de Vendée. Élevé en plein air, 89 jours et 90 nuits. Parmi 380 autres poulets, alimenté avec 75% de céréales. Le 3 décembre 1998, à l'abattoir de Saint-Fulgent, électrocuté, vidé, déplumé, lavé, conditionné, labellisé le poulet. Le 11 décembre 1998, je l'ai acheté 52,55 francs chez le boucher chauve rue de la Bastille. Je l'ai mangé chaud le midi, froid le soir, avec une bouteille de vin rouge. Je l'ai adoré le poulet, mon poulet numéro 728120. Je t'aime. Je pense à toi.
Comme un bruit qui court.
Là, on protège pas la population. Tous les scandales qu'on a vus cette année, les scandales sanitaires, les volailles, les machins, c'est des grosses affaires. Et que font ces gens-là par rapport à ces grosses affaires? Par contre, on va emmerder le petit producteur bio qui a trois porcs.
Ah oui, bah attends, je vais l'allumer ailleurs. Je reviens.
Et vous, pourquoi vous aviez décidé de devenir un paysan?
Parce que je vois aucune autre possibilité de fréquenter un peu un plaisir d'être dans cette société que de travailler la terre, vivre avec les animaux, avec les végétaux, et une volonté aussi de sortir de cette société industrielle, en fait, qui est pour moi mortifère, étouffante. C'est pour ça aussi qu'être paysan, pour moi, c'est une lutte, c'est un combat. C'est forcément être au premier plan du conflit qui a mené avec cette société si on veut sortir de cet étouffement, quoi, en fait.
Alors du coup, est-ce que pour vous, il y aurait un moyen de rentrer dans les clous en continuant de faire votre métier de paysan, ou le fait que vous vouliez travailler comme vous travaillez fait que vous êtes condamné à l'illégalité
Dans l'absolu, je pourrais, en mettant mon orgueil de côté et en faisant le deuil de choses les plus importantes qu'on fait ici, c'est-à-dire d'accepter d'accompagner nos bêtes jusqu'à la mort, les tuer, les découper, d'avoir le plaisir de faire ce travail de boucherie. Pour moi, c'est un vrai plaisir de travailler la viande, de la manger, et que j'ai pas du tout envie de perdre cette possibilité-là. Donc pour moi, c'est sûr, refaire le chemin inverse vers la légalisation de mon troupeau, ça serait sans doute abandonner beaucoup trop de choses qui me tiennent à cœur pour que je le fasse. Après, voilà, il y a plein d'éleveurs qui font un super boulot et qui restent dans les clous et qui arrivent à jouer, en fait, entre les gouttes. Et que c'est possible, en fait, c'est possible, sauf que sans lutter aujourd'hui, enfin, ça va être de moins en moins possible, quoi. Voilà. Encore des animaux non pucés.
Où ça?
Bah, le bouc.
Et des oies aussi, une oie?
On a un jar et une oie qui est en train de couver, qui est normalement. Les oiseaux doivent éclore samedi ou dimanche. De rentrer, il faut un bâton parce que c'est terrible comment il attaque quand il y a un... un G. bizarre qui garde sa loi qui coupe, c'est terrifiant.
Et elle coupe dans la camionnette là?
Ouais. Et on recycle comme on peut les camions qui ne respectent plus les normes anti-pollution, les contrôles techniques. Parce que là aussi, la gestion par les normes est en train de faire des ravages là. Avec la nouvelle norme qui rentre en application le 20 mai. Je pense que un bon pourcentage des véhicules en circulation en France vont devoir partir à la casse sous des prétextes à nouveau fallacieux de protection de la sécurité routière ou de la pollution. Ça a l'avantage de dynamiser l'industrie automobile puisqu'on est obligé de racheter de nouvelles bagnoles. Quoi.
Pour ceux qui peuvent, quoi.
Pour ceux qui peuvent, voilà. Mais voilà, là aussi, c'est un endroit où personne se révolte, parce qu'on n'a pas trouvé encore les moyens de se rassembler, quoi. Et puis, il y a tellement d'occasions de se révolter contre ce système-là qu'on ne sait plus par lequel commencer, quoi. Du coup, on se laisse grignoter nos vies, nos autonomies, nos libertés, à chaque fois un peu plus, quoi. Donc, peut-être, avec la question paysanne, il y a quelques chances de refabriquer un peu un sentiment de commun et d'unité qu'on n'arrive pas à fabriquer ailleurs, quoi, mais c'est pas non plus 100% gagné, quoi.
Tu restes là. Pas bouger. Pas bouger. Non. Pas bouger, belle.
J'ai vu jusqu'à une cinquantaine de brebis. Là, il y en a à peine 30. Quand j'ai changé de ferme, en fait, j'ai perdu quand même beaucoup de parcelles. Et du coup, on n'a pas pu garder les 50. Mais voilà, c'est aussi la petite taille du troupeau qui permet le type de bricolage qu'on pratique. Sur un gros troupeau, ce serait plus compliqué. Il voilà, y a le bélier qui est en train de se gratter.
Contre l'arbre.
C'est une race écossaise, blackface. Ils sont très laineuses et très robustes.
On n'a jamais vu des comme ça.
Non, il n'y en a vraiment pas beaucoup en France.
Donc c'est ces brebis-là qui officiellement n'existent pas.
C'est ça, pourtant elles ont l'air bien heureuses ici, mais peut-être en fait c'est ça le secret de la vie dans la société industrielle, c'est de ne pas exister.
Dites-moi, mon bon seigneur, nous serait-il possible de voir bien au-delà de la limite de ces champs où l'on cultive le mépris, la haine entre les gens, pendant que vous dormez sur ces coussins gonflés d'argent? Ne comprenez-vous pas, nous ne sommes point différents, nous aimerions tout simplement nourrir nos enfants. Nous n'avons ni les biens, ni terre, ni même coussins, que vous offrez si courtoisement aux tendres courtisanes. Je blâme votre honneur, tout comme celui de vos descendants, qui dans la file d'attente n'hésite pas à passer devant, le torse bombé d'orgueil, les poumons vides d'inspiration, à l'image d'un bon père qui exaspère tous ces millions de villes affamées qui jurent de vivre comme des damnés et qui pour eux sont prêts à tout pour que naisse la révolution. Venez voir le spectacle d'un conteur de la vie. Tous les soirs de la semaine se joue la grande tragédie. Du drame à la passion, aux femmes de la fontaine, sur les bords de la Seine se joue la comédie humaine.
Des serres pour fermer les portes.
Bravo Charlotte, nous voilà presque receleurs de carottes terreuses, tomates non calibrées et viande paysanne, alors que la France importe de plus en plus de splendides produits estampillés bio pour remplir les étals des grandes surfaces avec un bilan carbone déplorable, c'est vrai, mais au moins c'est calibré et ça respecte les normes.
Ouais, c'est bien ça le pire Antoine, c'est que pour bien manger aujourd'hui, mieux vaut se tenir éloigné de toutes ces belles étiquettes qui brillent dans nos supermarchés. Et pour en savoir plus sur les résistances en cours à l'industrialisation de l'élevage, procurez-vous le très bel ouvrage « On achève bien les éleveurs » aux éditions L'Échappée.
On achève bien la santé publique aussi. Une autre histoire de fou, et ça se passe en ville cette fois, Give.
Oui, c'est l'histoire d'un hôpital psychiatrique au bord de la crise de nerfs. Près de Rouen, voilà 2 mois que les personnels de l'hôpital psychiatrique du Rouvray, le 3e de France, sont en grève pour dénoncer le sous-effectif chronique et la surpopulation qui rendent leur travail non seulement dangereux, mais surtout indigne. Mais comme les piquets de grève, les manifestations et autres rendez-vous officiels sont restés sans suite, 7 salariés ont entamé le 22 mai une grève de la faim, 12 jours aujourd'hui. Et comme par hasard, on commence à peine à les daigner les entendre. Face au mépris de la logique comptable comme seule boussole, ils refusent d'être complices du sort réservé aux personnes vulnérables et en grande souffrance. Bref, des soignants qui se battent pour leurs patients.
nos amis, nos camarades mettent leur santé aujourd'hui et leur vie en danger, c'est bien sûr parce qu'ils veulent des postes, c'est bien sûr parce qu'ils veulent l'ouverture d'un service pour les adolescents et les adolescentes, mais c'est aussi parce qu'ils trouvent que c'est insupportable le sort qui est fait à la santé ici. Et si Buzyn est aujourd'hui sourde, même si elle est médecin, je crois, même si le président de la République est aujourd'hui sourd, c'est parce qu'ils savent que ce n'est pas 52 postes qui sont en jeu. Ce qui est en jeu, c'est est-ce que les hospitaliers, est-ce que les cheminots, est-ce que leur soutien, est-ce que nous, en tant que parents, amis, trouverons un désert médical en face d'eux ou trouverons une santé et un service de public aptes à les accueillir et à les soigner.
On y est, on arrive et regarde un petit peu toutes ces banderoles là.
Qui sème la misère récolte la colère, grève de la faim. Il y a des panneaux rouges. La santé n'est pas une marchandise, l'hôpital n'est pas une entreprise. Pour la défense du service public, nous voici sur le parking de le centre hospitalier du Rouvray. C'est
le
comme
centre
ça.
Centre hospitalier du Rouvray ou hôpital psychiatrique du Rouvray.
Et c'est, on voit là, c'est vraiment un grand
c'est
hôpital.
Un grand...
Oui, je crois que c'est par sa taille le troisième en France, le troisième hôpital psychiatrique, parce que nous, ce qui nous intéresse, là, il y a tous les différents services, les pavillons, mais c'est en psychiatrie que ça se passe.
Exactement. Et là, on est arrivé tout proche du bâtiment de l'administration où se sont réfugiés les grévistes depuis maintenant deux mois de grève.
Allons voir.
Bonjour.
Ça y est, vous êtes arrivés. Grand moment là. Beaucoup de monde à l'AG. Et là, le personnel a envahi les locaux de la direction.
Envahi les locaux. Occupation.
Vous les voyez là, sur les fenêtres à l'étage supérieur, là au premier étage. Ils viennent de monter et je crois, alors moi je suis comité de soutien et c'est tout, donc je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense qu'ils vont rester. Ils vont passer la nuit.
Je coupe parce que là il y a une prise de parole. Il y a un gars qui est monté tout en haut.
Nos collègues crèvent, nos patients aussi crèvent. C'est pour eux qu'on se bat.
Les collègues, ils en sont à J10 aujourd'hui. Ça fait 10 jours qu'ils n'ont pas bouffé. La seule solution qu'on a trouvée, c'est d'investir ce bâtiment. Donc l'administration a décidé de l'abandonner. Ils sont partis ce matin. Ils n'ont plus aucune réponse à nous donner. Donc nous, on va rester le temps qu'il faut. On se fera déloger s'il faut se faire déloger. Mais on attend une réponse. Et pour tout ça, on a besoin évidemment de vous tous, d'encore plus de monde. Tant qu'il y aura du monde ici, du monde dedans, on va se faire entendre. On va y arriver. Ça va marcher.
Et là, il y a une ambulance qui passe et qui fait marcher son gyrophare en soutien, alors que les grévistes qui occupent le bureau de la direction de cet hôpital s'adressent au soutien depuis le toit de l'hôpital.
On est tous installés autour de la table, et nos collègues grévistes de la faim, ils sont à la place des directeurs, ça fait du bien.
Merde, c'est quand même le moment d'y aller dans la santé et dans la psychiatrie. C'est pas seulement de solidarité dont il s'agit, c'est de défendre tous notre peau, le droit de soigner. Eh bien, pourquoi ne pas inviter la population de Rouen à une grande manifestation de solidarité avec les salariés pour passer au-dessus? Parce que moi, j'en ai marre d'avoir peur pour des gens qui mettent leur santé et leur vie en danger.
Là, ça monte, là, il y a... Ça monte.
Parce que vous, Dominique, vous êtes un membre du comité de soutien.
Voilà. Je suis un membre du comité de soutien en tant que, je suis engagée syndicalement et politiquement, mais je suis aussi personnellement touchée par tout ce qui concerne la psychiatrie, ayant en charge une nièce schizophrène sévère. Donc je connais très bien cet hôpital, je sais aussi le travail qu'ils font, je sais combien c'est difficile et combien on en a besoin, nous, les familles. Et ça me touche complètement, quoi. Ça me bouleverse même, pour tout dire, quand je vois qu'on ne fait aucun cas d'eux, qu'on détruit ce qui a été les avancées qui ont été conquises pendant 20 ans. supporte pas, donc je suis tout cœur avec eux. Voilà.
Parce que généralement, quand il y a une mobilisation dans les services publics hospitaliers, c'est pour dire halte aux cadences infernales, où on veut des augmentations ou une amélioration du statut. Or là...
Là, ça n'a rien à voir, en fait, c'est pour le bien.
Ça, c'était juste un petit pétard.
C'est pour
qui nous a fait sursauter.
C'est pour le bien des patients et puis pour les patients, en fait, c'est ça le truc. C'est qu'ils font la grève de la faim, pas pour eux, pour les familles, pour les patients.
Je pense que c'est les grévistes de la faim qui redescendent de la direction, là.
Je suis.
Il y a une grande tente rouge à l'entrée des bâtiments de cette partie de l'hôpital psychiatrique. Grève de la faim. Hôpital à défendre, c'est la ZAD, avec un Z apostrophe, hôpital à défendre. Face à l'indifférence, ici, on crève.
On va repasser rapidement.
Merci d'être venu et puis bon courage aussi à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Vous voulez vous asseoir, qu'on discute 5 minutes?
Oui, prendre notre siège à nous.
Asseyez-vous, c'est vous, j'ai là, vous faites peur là. Parce que je vous vois là, Anne, vous êtes assise avec votre bouteille d'eau et vous avez ce petit autocollant qui dit « Gréviste de la faim ».
C'est ça, je fais partie des 7 grévistes de la faim et moi je suis infirmière ici dans l'hôpital. Donc bon, 10 jours c'est beaucoup. On est dans un état de fatigue constant. Et moi, tous les jours, je me dis, j'ai faim.
Mais bon, vous tenez bon.
Malgré notre état physique, on tient et on tiendra parce que on nous méprise depuis tellement longtemps.
Pourquoi on en est arrivé là, après vous?
C'est la surpopulation depuis 6 ans. Quand on reçoit un patient qui n'est pas agité, qu'on met en chambre d'isolement sur un matelas au sol avec un seau pour faire ses besoins, avec une porte ouverte dont il n'a même pas la clenche à l'intérieur pour pouvoir sortir, mais c'est hyper angoissant pour lui. Il n'a aucune raison d'être dans ces chambres-là. Ça, c'est scandaleux. C'est du grand n'importe quoi et ça fait trop longtemps que ça dure. Trop longtemps. Il faut que tout ça, ça s'arrête, qu'on revienne quand même. Un peu de respect des patients. En plus, eux, ils ont cette gentillesse-là de ne pas se plaindre de ça, et du coup c'est encore plus révoltant, mais non, il y en a marre. Donc voilà, on a décidé de faire la grève de la faim. Effectivement, il y en a plein qui ne comprennent pas, et je comprends qu'ils ne comprennent pas, c'est une mesure extrême, mais stop, c'est plus possible.
Donc là, vous avez décidé aujourd'hui d'occuper la direction?
Oui.
Vous êtes un peu barricadé à l'intérieur, c'est pour ça qu'on ne peut pas rentrer, nous?
Oui, c'est ça, oui, on est barricadé.
Et ce soir, vous allez veiller encore?
On va être dedans, on passe à l'action.
Bah, bon courage en tout cas. Merci. C'est marrant, pendant ce temps-là, on entend le chant des partisans qui
commence. Carrément, oui, c'est bien, merci.
Moi, j'aimerais bien savoir quelles sont nos priorités. Est-ce que nos
la
priorités...
santé, c'est une priorité.
RMC, la grande gueule du jour.
On ne s'occupe plus des patients, nous ne sommes pas assez nombreux, on n'en peut plus. Vous venez d'entendre ces infirmiers de l'hôpital du Rouvray qui sont en grève de la faim.
Ils sont 7 salariés hein, qui ont investi les locaux, la direction de cet hôpital psychiatrique près de Rouen.
La psychiatrie aujourd'hui en France, elle est en crise.
Benoît Hamon,
moi je reviens,
est venu les soutenir et dénonce le mépris envers les grévistes.
Depuis des mois, il n'était reçu par personne.
Est-ce qu'il faut les soutenir? Il faut leur donner raison, Johnny Blanc?
Alors, je dis pas qu'il faut pas les soutenir. Je dis seulement qu'il faut aussi rester raisonnable en termes de masse salariale.
Ils veulent 52 postes de soignants et des brancardiers.
Donc, il n'y a pas des budgets disponibles non plus. Dans
attends,
sens,
moi, j'ai entendu qu'on allait recruter 10 000 policiers pour faire respecter la loi sur les outrages sexistes dans la rue. Quelles sont nos priorités? Est-ce que nos
la
priorités...
santé, c'est une priorité.
Oui, bonjour, je suis Joachim Moïse, maire communiste de Saint-Étienne-du-Rouvray.
Un site hospitalier occupé, des syndicalistes qui sont en grève depuis maintenant 2 mois. Moi, je pensais que le maire, il viendrait dire « Rentrez chez vous, arrêtez cette trouble à l'ordre public ». Et là, vous les soutenez?
Oui, je les soutiens en tant que maire. Je soutiens aussi en tant que conseiller régional, parce que j'estime qu'au niveau de la région, il faut aussi peser pour obtenir les moyens de la solidarité en termes de santé. Et je soutiens aussi en tant que membre du conseil de surveillance de l'établissement, parce que on peut constater une recrudescence du nombre de pathologies et de malades, une file active qui a augmenté, mais néanmoins, on ne peut pas faire sans des éléments de réponse en termes de moyens humains. Il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin effectivement de pouvoir avoir des réponses par rapport aux troubles psychologiques qu'ils vivent. Et en particulier, vous savez qu'on a été touché par un événement en 2016.
On parlait de l'attentat djihadiste de Saint-Étienne-du-Rouvray et du père Jacques Hamel qui a été poignardé ici même.
Oui, tout à fait. Où l'un des deux qui ont commis cet attentat était un jeune Stéphanais victime de troubles psychologiques graves et psychiatriques. Et je crois justement que la question de la prévention et l'accompagnement des patients était une question majeure. Et il faut que cet enjeu-là ait une réponse à la hauteur, c'est-à-dire des moyens humains qui ne sont pas à l'heure actuelle suffisants. Et les mieux placés pour en parler, ce sont les soignants eux-mêmes.
En blouse blanche devant l'administration de l'hôpital, Julie est accroupie sur une banderole.
Je suis en train de taguer pour montrer notre soutien aux grévistes de la faim.
Cette infirmière épaule ses collègues, devenus le symbole du ras-le-bol collectif. Elle a débrayé plusieurs jours, mais n'a pas arrêté de manger.
Cette violence-là, je m'en sentais pas capable. J'aimerais pouvoir juste faire mon travail dans des conditions dignes pour les patients.
Des patients comme cet homme, hospitalisé ici plusieurs fois pour troubles psychiatriques. Il est venu prendre un café et des nouvelles des grévistes.
Ça me fait mal au cœur qu'il s'en arrive là. Ça ne devrait pas être acceptable qu'il y ait un manque d'effectifs comme ça. C'est inadmissible. C'est honteux.
Ça, c'est scandaleux.
Parce que moi, j'en ai marre.
Il y en a marre. Bonjour.
En 2018, en France, on est obligé de faire des manifestations pour demander de traiter de maltraiter les gens.
C'est honteux.
Si je vois les panneaux, là, il y a une banderole gigantesque qui barre l'entrée de ce bâtiment, qui est le bâtiment administratif, c'est ça?
Oui, c'est là où est installée la direction de l'hôpital.
Ici, on crève et leur réponse, c'est, et on voit un gros majeur, un doigt qui est pointé au public. Et là où il y a beaucoup de monde, en plus des drapeaux, il y a un grand rassemblement qui se fait ce jeudi ici à l'hôpital.
Ouais, ça fait plaisir de voir tout ce monde-là parce que les gens se sentent concernés de plus en plus.
Et comment je vous présente d'ailleurs?
Féti Bretel, je suis psychiatre en fait, j'ai 39 ans. Moi j'ai fait ma formation à l'hôpital du Rouvray, j'étais interne de psychiatrie ici, j'y ai été formé. Moi je suis sur le piquet de grève depuis dimanche dernier et je vois les rangs se grossir. D'autres professionnels, des citoyens, tout le monde vient là. Et surtout, à cet endroit précis, les langues se délient, les gens parlent entre eux. Et ça, on en a vraiment besoin, c'est pas qu'à l'hôpital. Parce que les gens vivent dans leur travail ou dans leur vie des choses terribles face auxquelles ils se sentent complètement impuissants. Et ça, ça touche toutes les professions dans l'hôpital, c'est pas seulement les médecins.
Le constat que vous partagez avec les aides-soignants, les infirmiers qui sont en grève de la faim, vous qui êtes docteur, c'est le primat du gestionnaire, les impératifs budgétaires ont pris le dessus sur même la qualité du traitement.
Les gestionnaires ont pris le pouvoir en fait. Les gestionnaires ne sont pas des gens de métier. Les gestionnaires, ils sont formatés pour imposer en fait une austérité budgétaire. Mais ça, ça n'est pas du tout spécifique à l'hôpital. On voit ça partout. Le problème, c'est que eux, les gens de terrain, on ne les écoute plus. On ne les entend pas. Mais ils l'ont très bien résumé. Ils ont dit, on leur parle humain, ils nous répondent chiffres. C'est un dialogue de sourds.
Et alors, ça a quelles conséquences dans le traitement, dans la prise en charge des patients?
Bon, alors des drames, il y en a plein. J'en ai plein la tête des exemples de drames comme ça. Celui que j'ai le plus en tête, c'est cette dame qui était au fond de son désespoir, qui avait annoncé qu'elle en était à vouloir se jeter par la fenêtre du 7e étage, que j'avais fait hospitaliser, qui est ressortie juste quelques jours après. Pourquoi? Parce qu'il y a un turnover impossible à l'hôpital à gérer. On ne peut pas hospitaliser tout le monde. On fait sortir plutôt des gens qui, eux, devraient pouvoir bénéficier d'un temps de répit à l'hôpital.
Comme cette femme qui avait envie de se défenestrer.
Exactement, comme cette femme qui avait envie de se défenestrer. Et donc, il l'a fait le lendemain de sa sortie de l'hôpital. J'ai appelé sa fille pour lui présenter mes condoléances. Ce qu'elle m'a répondu, c'est « Je ne comprends pas pourquoi on l'a fait sortir ». Que répondre à ça, je comprends pas non plus.
En tant que médecin, c'est dur d'en arriver à ce constat-là. Parce que là, vous n'êtes pas pour laisser partir les gens dans la nature, prêts à mettre fin à leur jour.
Non, bien sûr.
Le serment d'Hippocrate, c'est pas ça.
C'est clair. Mais c'est une profession, c'est un métier qui ne peut pas se passer de relations. Dès lors qu'on fait croire aux gens que des médicaments vont remplacer la relation, on se fout de leur gueule et on les laisse crever.
On est à l'hôpital psychiatrique du Rouvray, près de Rouen, où des infirmières et des infirmiers sont en grève de la faim depuis 10 jours pour réclamer en urgence la création de nouveaux postes et plus de moyens. Ils poussent un cri d'alarme, ils n'ont plus aujourd'hui les moyens de s'occuper correctement de malades parfois très difficiles.
Merde, c'est quand même le moment d'y aller dans la santé et dans la psychiatrie.
Donc nous on va rester le temps qu'il faut, on se fera déloger s'il faut se faire déloger, mais on attend une réponse.
Parce que moi j'en ai marre.
On va se faire entendre, on va y arriver, ça va marcher.
C'est encore mieux. C'est le grand Ramdam là dans l'hôpital psychiatrique aujourd'hui.
C'est-à-dire que maintenant la souffrance elle s'est transformée en colère. Donc ça fait du bruit la colère parce que sinon les gens ils craquent. Les gens ils craquent, ils se suicident ou ils démissionnent comme beaucoup de psychiatres ici. Mais le personnel lui il est là, il souffre, il a fait des grèves, ils ont occupé l'ARS.
Ça c'est l'agence régionale de
l'agence
santé.
Régionale de santé ici. Et à chaque fois on leur dit non. Et donc plutôt que de tomber en arrêt de maladie, hein, il y a eu doublement des arrêts de maladie ici de courte durée en un an, plutôt que de tomber malade, on part du côté de la colère. Et c'est très bien parce que du point de vue de la santé, c'est bien pour la personne qui sont en colère. Et puis du point de vue de la santé, j'espère, mais ça c'est tout l'objet de la grève et de la grève de la faim, j'espère que ça va marcher aussi. Et je fais partie du pool des médecins qui suivent la grève de la faim.
Vous suivez l'évolution de la santé des grévistes?
Oui, tous les jours, avec tout un ensemble de collègues ici. Donc nous, on est anxieux. Des gens nous demandent de mettre leur santé aujourd'hui en danger, leur vie peut-être en danger. Et notre boulot, c'est pas ça. Notre boulot, c'est de soigner. C'est pas d'aider les gens à se mettre en danger.
Et pourtant, les syndicalistes en sont arrivés à cette dernière extrémité.
Bien sûr, bien sûr. Alors ça craque ici parce que la psychiatrie, leur arme, c'est l'humain et que... Pour faire de l'argent, on détruit encore plus les relations à l'hôpital psychiatrique. Et puis qu'ils voient des choses insupportables. Hein. Il y a des choses qui sont sorties quand des mineurs, avec un E, sont hospitalisés la nuit dans des services de psychiatrie adulte parce qu'il n'y a pas de place ailleurs.
C'est-à-dire une jeune adolescente qui est en souffrance et qui se retrouve dans une chambre avec 2-3 personnes.
Qui aussi ont des troubles. Voilà, et pour la première fois, il y a eu des viols ici. Donc tout ça, c'est insupportable.
Ah, c'est grave,
ouais. Bien sûr, c'est grave. Tout ça, c'est plus possible.
Et là, je voyais, c'était Challenge qui titrait ça il y a quelques semaines. Malgré les promesses de campagne de Macron, la santé publique, l'hôpital public, va devoir faire cette année encore 1 milliard d'économies en plus.
Bien sûr. 32 000 postes doivent être supprimés, hôpital par hôpital. Donc ça, c'est impossible. Année par année, on dégraisse le mammouth, sauf que le mammouth, il n'est pas dans un musée. Évidemment, le service public, lui, il rencontre les gens les plus difficiles, les situations les plus difficiles. Eh bien, il y a ceux qui sont les premiers de cordée, vous savez. Et puis, vous savez, des fois, en médecine d'urgence, on dit ça, il faut sacrifier ceux qui vont mourir. Donc on nous dit, vous allez mourir pour soigner les premiers de cordée. Mais nous, c'est pas ça. Le premier de cordée, c'est 1% de personnes. Le deuxième de cordée, c'est 99% de la population. Donc nous, on se bagarre pour que tout le monde soit soigné, quitte à couper les 1%.
Merci beaucoup.
Monsieur le Président,
Philippe Lambert,
vous avez pris coutume d'offrir à vos hôtes de marque un cadeau. Permettez-moi de faire de même.
Eurodéputé écologiste belge,
je vous offre
18 avril 2018.
Cette corde d'escalade, symbole de la cordée à laquelle vous semblez tenir, je vous dirai ceci. Voici quelques mois, vous avez parlé des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Vous n'avez pas dit des gens qui ne font rien ou des gens qui n'ont rien. Vous avez parlé des gens qui ne sont rien. Voyez-vous, pour nous, le projet européen consiste précisément à faire en sorte que plus jamais, en aucun endroit de ce continent, aucune femme, aucun homme ne puisse être considéré comme rien ou se penser comme rien. Car considérer des êtres humains comme rien, c'est permettre de leur faire subir n'importe quoi. Et cela, nous ne l'accepterons jamais.
La maladie, dans ce cadre-là, c'est beaucoup de souffrance psychique quand même. Voilà, ces personnes nécessitent qu'on les accompagne de manière humaine. Et j'ai comme l'impression, moi, que la Startup Nation que veut Monsieur Macron, elle ne fait pas beaucoup cas de ces souffrances-là. Pourtant, elles existent, elles sont là. Ce n'est pas les premiers de cordée ici. Non, en effet, ce n'est pas les premiers de cordée.
Les derniers de cordée peut-être, mais en tout cas ils sont dans la rue aujourd'hui, ils manifestent à Rouen cet après-midi. Et vous pourrez retrouver sur le site de l'émission Comme un bruit qui court à l'adresse franceinter.fr la pétition pour les soutenir et la caisse de grève.
toutes les informations donc sur le site de France Inter. C'était Comme un bruit qui court. Laissez-nous des messages, abonnez-vous au podcast et faire courir le bruit. Que le bruit court. On se retrouve samedi prochain à 16h.